Bonjour à tous et bienvenue, 15h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le Liban sous le choc après les deux vagues d'attaques lancées avec des beepers et des talkie-walkie piégés. Les victimes sont nombreuses. Le chef du Hezbollah vient de prendre la parole, reconnaissant que son mouvement avait reçu un coup sévère, en ajoutant que le front du Liban avec Israël resterait ouvert jusqu'à la fin de l'agression à Gaza. En France, deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier mène ses ultimes consultations. Une réunion présentée comme décisive vient de se tenir à l'hôtel Matignon. Favorisé par une meilleure météo, la situation s'améliore sur le front des feux de forêt au Portugal. Les pompiers comptent venir à bout des incendies qui ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares de végétation. Les événements au Liban seraient le prélude d'une guerre régionale plus large. C'est la crainte exprimée entre autres par le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bouhabib. Le Hezbollah a confirmé ce matin la mort de 20 de ses membres dans les explosions de talkie-walkie d'hier attribuées à Israël. On estime le total de blessés à 450 dans cette nouvelle vague d'attaques qui a suivi celle de mardi, lancée elle au moyen de beepers piégés. Cette double attaque a provoqué la sidération de la population libanaise et a déclenché une véritable psychose. Reportage de notre correspondante Sophie Guignon.
Un cauchemar, un mauvais roman d'espionnage. Quand le bruit d'une seconde vague d'explosion s'est répandu à travers le Liban, l'inquiétude et la méfiance ont gagné Oda, béroutine et mère de deux enfants.
J'ai très peur. C'est dur de rassurer ses enfants quand toi-même tu n'es pas rassuré. On a peur, mais on ne sait pas de quoi. Et on a peur de tout. Tu rentres chez toi, tu as peur. Tu sors de chez toi, tu as peur. On ne se sent pas en sécurité.
À proximité de l'un des hôpitaux de la capitale qui accueille des blessés de ces attaques aux beepers et aux talkie-walkie, Mona gère un café. Elle fume nerveusement un narguilé en regardant son téléphone d'un air perplexe.
Je n'ose plus tenir mon téléphone dans mes mains. Avant, je le posais à côté de moi pour dormir, mais maintenant, je n'ose plus. Et puis, j'ai acheté un billet d'avion. Je veux partir. Je ne reste plus ici. Maintenant, j'ai peur de tout. Ah tiens, c'est mon fils qui appelle pour prendre des nouvelles.
Si les vols sont maintenus, Mona partira, elle, pour la Turquie. Face au risque d'escalade, le ministère des Affaires étrangères demande aux ressortissants français de ne pas se rendre au Liban. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
La situation au Liban sera débattue demain en urgence au Conseil de sécurité à New York. Dans l'immédiat, Hassan Nasrallah, le puissant chef de la formation chiite, a pris la parole à Beyrouth. Il a reconnu que son mouvement, donc le Hezbollah, avait reçu un coup sévère, mais en prévenant que le front du Liban avec Israël resterait ouvert jusqu'à la fin de l'agression à Gaza. Le Hezbollah se retrouve sinon déstabilisé, du moins très ébranlé par ces attaques technologiques d'un genre nouveau. À cette échelle, elles sont totalement inédites. Elles portent la marque des services secrets de l'État hébreu, le Mossad. Bien évidemment, Israël s'est refusé à tout commentaire. On vient aussi d'apprendre que l'armée israélienne avait lancé de nouvelles frappes sur des cibles du Hezbollah au Liban et que cette aviation israélienne avait franchi le mur du son au-dessus de Beyrouth pendant le discours de Nasrallah. Direction maintenant le Canada, pays qui fait machine arrière en matière migratoire. Après avoir mené des campagnes de recrutement massives pour combler ses besoins en main-d'œuvre, Ottawa annonce un durcissement des règles à retenir, la réduction du nombre de permis d'études internationaux et le durcissement des conditions d'obtention des permis de travail temporaires. Avec quelles conséquences pour les migrants déjà installés et leurs employeurs? Élément de réponse avec sur place Pascal Guéricola.
Vouloir venir au Canada est peut-être un rêve, mais c'est un privilège et non un droit.
Cette mise en garde du ministre canadien de l'immigration, Mark Miller, illustre bien le changement de ton à Ottawa face à l'immigration. Préoccupé par les difficultés d'accès au logement et aux services publics, le gouvernement veut réduire le nombre d'étrangers à petits salaires recrutés par des entreprises sur une base temporaire. Des soudeurs, des mécaniciens, employés pour combler des besoins en main-d'œuvre en dehors des grandes villes, risquent de ne pas pouvoir renouveler leur permis de travail. Le constat de l'avocate en immigration, Krishna Gagné.
À partir de la semaine prochaine, si une entreprise a déjà 60 % de travailleurs étrangers à bas salaire, elle ne pourra nécessairement pas renouveler tous ces travailleurs. Plusieurs entreprises sont actuellement en panique.
Plusieurs déplorent le manque de mesures de transition. Certains risquent de perdre leur emploi du jour au lendemain, comme le déplore Claire Launay de l'association Le Québec, c'est nous aussi.
C'est juste des projets de vie qui tombent complètement à l'eau pour des milliers de personnes s'ils ne peuvent pas renouveler leur permis de travail, alors que ces règles-là n'existaient pas quand elles sont arrivées au Canada.
Selon elle, des immigrants temporaires pourraient donc se retrouver sans papier. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Au Mali, le bilan des attaques djihadistes de mardi est très lourd. Ces attaques lancées contre une école de gendarmerie et l'aéroport militaire de Bamako ont fait de sources sécuritaires plus de 70 morts et 200 blessés. En France, deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier mène aujourd'hui ses ultimes consultations en vue de former un gouvernement. Une réunion décisive entre le Premier ministre et les forces politiques susceptibles de participer à ce gouvernement vient de se terminer après presque deux heures d'échanges, des échanges dont on ignore pour le moment le résultat. Emmanuel Macron, lui, fait comme si de rien n'était. Le chef de l'État visitait ce matin l'arboretum de Nanterre, près de Paris, après une fin de journée hier pleine de spéculation sur les tensions entre le Premier ministre et le camp présidentiel, Valérie Gasse.
Il a fallu attendre la toute fin de la visite d'Emmanuel Macron pour que le président, interpellé sur l'imminence de l'annonce du gouvernement, réponde dans un sourire qui se voulait détendu. Ben je ne sais pas, moi. Pas question pour Emmanuel Macron de donner une quelconque indication publique sur ses réticences concernant le choix des ministres fidèles à sa nouvelle posture du président en surplomb. Les rumeurs sur les tensions entre l'Élysée et Matignon qui ont circulé hier sont d'ailleurs évacuées par l'entourage du chef de l'État en mode « ça ne vient pas de l'Élysée ni de Matignon ». Michel Barnier a fait savoir qu'il menait cet après-midi ses dernières consultations. Faut-il y voir le signe d'une annonce rapide ? En marge de la visite présidentielle, conseillers comme élus ne disent pas le contraire. « On va atterrir », admet une députée du camp présidentiel. Une autre reprend sur le même registre. « Ça doit atterrir, ça va atterrir ». Après le coup de pression d'hier que l'une d'elles relativise en estimant que c'est normal que ça se tende un peu à la fin, l'heure du compromis semble venu.
Valérie Gasse, chef du service politique. De nouvelles violences en Martinique, île des Antilles françaises. Le préfet a signé un arrêté de couvre-feu dans certains quartiers de Fort-de-France. Depuis plusieurs nuits, des violences urbaines secouent la Martinique dont la population proteste contre la vie chère. À la faveur d'une meilleure météo, la situation s'améliore sur le front des feux de forêt au Portugal. Les pompiers comptent venir à bout des incendies qui ont sévi ces derniers jours dans le nord et le centre du pays, tuant 5 personnes et ravageant des dizaines de milliers d'hectares de végétation. Les services de secours portugais recensent encore 4 incendies assez actifs dans le nord du pays. À la page économique, le développement de l'intelligence artificielle semble inévitable. Mais comment se prémunir des risques associés à ce nouvel outil ? Faut-il le réguler ? Une coopération internationale est nécessaire. C'est l'avis rendu par une quarantaine d'experts en technologie, droit et protection des données personnelles. Ils se sont réunis à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Agnieszka Kumor.
Ne pas abandonner l'intelligence artificielle aux lois du marché, c'est ce que disent les experts de l'ONU. Leur rapport, publié en amont du Sommet pour l'avenir à New York, constate sans surprise le manque de gouvernance mondiale concernant l'IA, sans parler du fait que les pays en développement sont quasiment exclus du débat. Premier outil suggéré serait donc la création d'un groupe international d'experts scientifiques sur l'IA, à l'instar du groupe d'experts pour le climat, le GIEC. Ces rapports font référence en la matière. Le rôle de ces scientifiques serait d'éclairer le monde sur les risques émergents, désinformation, deepfake, violation des droits humains ou utilisation par des criminels ou des terroristes. La liste des risques est longue. Il s'agirait aussi d'envisager des recherches dans d'autres domaines, et ce pour utiliser l'intelligence artificielle dans le développement durable, comme l'élimination de la faim et de la pauvreté, l'égalité homme-femme, ou encore le dérèglement climatique.
Encore des frictions entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan. Pékin a décrété des sanctions contre des entreprises américaines de défense pour avoir vendu des équipements militaires à Taïwan. Mesure prise alors que la Chine continue d'accroître la pression sur l'île nationaliste en exigeant que Washington cesse de soutenir ses déclarations d'indépendance. Enfin, les marchés mondiaux évoluent dans le vert aujourd'hui au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de baisser son taux directeur d'un demi-point. C'est le début d'un assouplissement monétaire attendu depuis des mois par ces marchés, plus 2% à mi-séance à Paris. Voilà, Jean-François Cadet, c'est à vous. Bonjour.
Bonjour et merci, c'était le journal de Gilles Moreau.